ouvrirons la parole de Dieu au psaume 126. Quand l'Éternel a ramené les déportés de Sion, nous étions pareils à ceux qui font un rêve. Alors notre bouche était remplie de rire et nos langues poussaient des cris de joie. Alors on disait parmi les nations, l'Éternel a fait de grandes choses pour eux. Oui, l'Éternel a fait de grandes choses pour nous, et nous sommes dans la joie. Éternel, ramène nos déportés, comme tu ramènes les ruisseaux dans le Négev. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront dans la joie. Celui qui marche en pleurant avec un sac de semences reviendra avec joie, emportant ses gerbes. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen.
Bonjour à tous. Est-ce que l'Éternel a fait de grandes choses pour vous cette semaine? Oui? Amen. Alors, réveil et parole de Dieu. Voilà donc notre thème, voilà donc notre mot d'ordre pour cette semaine. Réveil et parole de Dieu, ça ressemble aussi à ça. Main suivante. On pouvait laisser éteindre. Voilà. D'accord. Donc, vous voyez quand même assez bien. Réveil et parole de Dieu, ça va bien ensemble, hein? Bon. Effectivement, il est bon de se réveiller à l'heure, le matin, pour arriver à l'heure, à son rendez-vous. Mais il est encore mieux de se réveiller un tout petit peu plus tôt. Parce que Dieu nous donne aussi rendez-vous, chaque matin. Parce que Dieu nous donne aussi rendez-vous, chaque matin, pour un tête-à-tête. Voilà. Et croyez-moi, il y a quelque chose de très spirituel dans un réveil matin. C'est quand il sonne 10 minutes ou un quart d'heure plus tôt, pour justement prendre le temps d'ouvrir la Bible et de prier. Si au moins vous pouviez retenir ça, si au moins je pouvais moi aussi repartir avec cette conviction qu'il faut le matin que je prenne le temps d'étudier la parole de Dieu, de la méditer et d'ouvrir mon cœur à mon Seigneur. Nous avons vu que cette parole de Dieu a une puissance extraordinaire, elle peut transformer la vie d'un homme, d'une femme, de façon spectaculaire. Et hier soir, pour ceux qui étaient là, on a bien vu jusqu'où cela pouvait aller, à travers l'expérience douloureuse, mais ô combien bénie, de Kim Fook. Nous avons commencé d'apprendre l'alphabet des promesses de Dieu. Et je vous invite à continuer de serrer les paroles divines dans vos cœurs, autrement dit, de les fixer dans votre mémoire. A, B, C, D, E, F, etc. Alors je laisserai à votre disposition un résumé avec ces différentes promesses. Et elles seront à la disposition de tous. Qu'est-ce qu'il y a finalement au cœur de la parole de Dieu? J'aime bien cette photo. Qu'est-ce qu'il y a au cœur de la parole de Dieu? Eh bien, un cœur. Quel est le psaume le plus court de la Bible? Le 117. Bien. Quel est le psaume le plus long de la Bible? Le 119. Quel est le chapitre central de la Bible? Le 118. Exactement. Il y a 594 chapitres. Exactement. Il y a 594 chapitres avant et 594 chapitres après. Ce qui fait en tout 1188 chapitres. Le psaume 118 étant le 1189e chapitre de la Bible. Mais tiens, si l'on additionne le nombre de chapitres qu'il y a avant et après, on arrive à 1188. Je peux faire une référence avec ça. 1188. 1188. Je peux faire psaume 118, verset 8. Ah, et qu'y a-t-il au psaume 118, verset 8 ? Quelque chose que nous avons besoin d'apprendre chaque jour. Au cœur de l'expérience chrétienne, au cœur de notre vie de foi. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier, puis-je en l'Éternel ? Que de se confier à l'homme. Et puis c'est répété au verset 9 pour dire que c'est important. On le dit deux fois dans ce psaume. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier au grand. Parce que l'Éternel est plus grand que tous les grands de ce monde. Ne l'oublions jamais. Oui, la confiance en Dieu est un élément central de notre expérience. Apprenons à nous confier en sa parole. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel. Vous connaissez maintenant cette promesse de la lettre B. Et dont l'Éternel est l'espérance. Jésus, nous l'avons vu, est celui qui sème la parole de Dieu. Celui qui répand la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Et la semence, c'est la parole de l'homme, Jésus. Mais Jésus veut aussi faire de nous des semeurs. Qui, à son exemple, eh bien, parcourt les sentiers, parcourt les champs de ce monde pour semer des graines d'évangile. Mais cela ne va pas sans douleur. Cela ne va pas sans souffrance. Cela ne va pas sans larmes. Et c'est ce que nous avons lu dans le psaume 126 qui a été lu en introduction à ce message. Au verset 5, je relis, « Ceux qui sèment avec larmes, moissonneront avec chant d'allégresse. Celui qui marche en pleurant quand il porte la semence revient avec allégresse quand il porte ses gerbes. » Il y a là la promesse d'une moisson, la promesse d'une récolte abondante, mais la promesse aussi que cela ne se fera sans larmes. Ça ne se fera pas sans souffrance. Ça ne se fera pas sans effort. Ça ne se fera pas sans difficulté. Et l'apôtre Paul peut en témoigner par expérience. Si vous voulez apprendre avec moi dans le livre des Actes, au chapitre 20, ce qu'il a dit aux anciens d'Éphèse, avant de les quitter. Acte 20. Nous allons lire deux extraits de ce discours aux dirigeants de cette église d'Éphèse. Alors, lisons à partir du verset 17 jusqu'au verset 21. Cependant, de Mié, Paul envoya chercher à Éphèse les anciens de l'église. Lorsqu'ils furent arrivés vers lui, il leur dit « Vous savez de quelle manière, depuis le premier jour où je suis entré en Asie, je me suis tenu sans cesse auprès de vous. » Servant le Seigneur en toute humilité, avec larmes, et au milieu des épreuves que me suscitaient les embûches des Juifs. Vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile, et que je n'ai pas craint de vous prêcher, et de vous enseigner publiquement et dans les maisons, annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. L'apôtre Paul le certifie, c'était dans les larmes qu'il a prêché l'Évangile, dans les larmes qu'il a semé la parole de Dieu. Et un peu plus loin, à partir du verset 29, « Je sais qu'il s'introduira parmi vous après mon départ des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau, et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Veillez donc, vous souvenant que, durant 3 années, je n'ai cessé, nuit et jour, d'exhorter avec larmes chacun de vous. » Il y a un travail, une mission, nous avons parlé ce matin, durant notre école du sabbat, une mission à accomplir, la plus belle qui soit dans ce monde, mais peut-être aussi, dans un certain sens, la plus difficile. Vous connaissez tous Mère Teresa, qui a été une source d'inspiration. Vous connaissez tous Mère Teresa, qui a été une source d'inspiration pour beaucoup de gens. Elle a côtoyé des rois, des présidents, des hommes d'État, et nous a laissé un très bel exemple de service et d'abnégation. Pourtant, son rêve d'aider les autres a commencé par de menus gestes d'amour. Son but était de changer l'atmosphère, ne serait-ce que... Son but était de changer l'atmosphère, ne serait-ce que d'une famille, de sauver ne serait-ce qu'un enfant de la corruption, ou d'accompagner dans la dignité le départ, ne serait-ce que d'un seul mourant. Si vous voulez devenir une source de bénédiction dans ce monde, si vous voulez remplir votre mission pleinement dans ce monde, là où Dieu vous a placé, le seul moyen est d'imiter d'une certaine façon cette femme, l'apôtre Paul, ou mieux encore, Jésus-Christ. Dans son livre « Le lanceur d'étoiles de mer », Lorraine Elsy raconte l'expérience qu'il vécut un jour en se promenant sur une plage où des milliers d'étoiles de mer s'étaient échouées après une grosse tempête. En voici une. La plage semblait déserte jusqu'au moment où il remarqua un petit garçon qui ramassait les étoiles une à une avant de les jeter dans l'océan. Quand il lui demanda pourquoi il faisait cela, l'enfant répondit « Mais si je ne les jette pas dans les vagues, elles mourront sur le sable. » Et l'écrivain continua « Mais pourquoi en jeter quelques-unes à la mer, puisque de toute façon la plupart vont mourir ?»« Ça ne fera pas une grande différence, tu sais. Il y en a tellement. »« Ça ne fera pas une grande différence, tu sais. Il y en a tellement. » L'enfant en ramassa une autre qu'il jeta également dans les vagues de l'océan. Avant d'ajouter, mais pour celle-là, ça fera une grande différence. Lorraine Elsy retourna pensif à sa maison de bord de mer avec l'intention de continuer d'écrire. Mais il s'avoua vaincu par la logique de ce petit garçon. Il revint finalement sur la plage et passa le reste de sa journée à aider l'enfant à ramasser des étoiles de mer et à les jeter dans l'océan, une à une. Alors comment changer le monde? Ça a été le titre de nos rencontres cette semaine. Comment changer le monde? Eh bien en changeant une vie à la fois. En changeant le monde pour une seule personne. Voilà le processus par lequel se produit le changement discret, mais bien réel de notre monde. Je ne peux pas changer le monde en général, c'est certain, mais je peux changer le monde pour une personne, pour une famille, pour un enfant, pour un mendiant. Et là, cela fait toute la différence. Et il y a la promesse d'une moisson, d'une large moisson. Il y a la promesse qui vient derrière. Alors, peut-être que nous ne serons pas récompensés comme nous nous y attendons dans ce monde, de ce côté-ci, la rive du Jourdain. Mais certainement de l'autre côté. Jésus nous a dit et nous a demandé de faire tout le bien possible, sachant que dans l'au-delà, eh bien, nous serons comblés de joie. Connaissez-vous Corrie ten Boom ?
Oui.
Oui, très bien. Ça, c'est un 8 francs. Il est bien connu parmi les chrétiens. Il est né à Amsterdam. Bon, je ne vais pas vous raconter sa vie, mais elle a fait la résistance pendant la guerre avec sa famille. Et finalement, donc, elle a été internée dans un camp de concentration, celui de Ravensbrück, entre autres, où sa sœur est morte. Elle en est sortie vivante et elle a emporté avec elle une expérience, bien sûr, d'une très grande richesse qu'elle a partagée avec de nombreuses personnes. Et le monde entier, je crois, en a été véritablement béni. Mais peu d'entre nous savent que son neveu, un prénommé Pierre, a aussi aidé plusieurs Juifs à échapper à la persécution nazie. Parce qu'ils avaient une cachette dans leur maison, une cachette secrète, que personne ne connaissait, où ils avaient hébergé de nombreux enfants, entre autres. Et lorsque des patriotes hollandais apprirent que les SS envoyaient les orphelins juifs mourir dans des camps de concentration, eh bien, ils ont décidé d'enlever des enfants qui se trouvaient dans un orphelinat voisin pour les confier à la famille ten Boom, en attendant de leur trouver des parents adoptifs. À l'âge de 16 ans, Pierre, son neveu, déjà chrétien engagé, défia un groupe d'Allemands en jouant l'hymne national hollandais sur l'orgue de son église, pendant que tous les gens rassemblés se mettaient debout pour chanter. Cela lui valut d'être emprisonné un certain temps. Après la guerre, il a parcouru le monde, prêchant le même message que sa tante, à savoir que le pardon est la seule réponse à la haine. Un jour, alors qu'il voyageait en Israël, il fut terrassé par une crise cardiaque et hospitalisé d'urgence. Et juste avant l'opération dont dépendait sa survie, le chirurgien cardiologue vient le trouver pour lui demander « Mais ne seriez-vous pas par hasard en parenté avec les ten Boom de Hollande ?» Pierre répliqua « Oui, c'est ma famille. » Et le chirurgien lui dit alors « Mais je suis l'un des orphelins que votre famille a sauvés. » Peu après, cet homme dont les ten Boom avaient sauvé la vie plus de 40 ans auparavant allait sauver la vie de Pierre. Payant en quelque sorte la dette qu'il devait à sa famille. Oui, nous moissonnerons au temps convenable. Après le travail dur de labour, d'ensemencement, de soins, du semis, eh bien vient la récolte. Et cela appartient à Dieu. Le quand, le comment, le où, ça appartient à Dieu. Jésus nous a précédés sur ce chemin de larmes qui précède la joie. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, a présenté avec de grands cris, avec larmes, des prières et des supplications à celui, son Dieu, qui pouvait le sauver de la mort. Jésus est cet homme de douleur dont parle le prophète Ésaïe. C'est un texte que nous avons vu cette semaine, mais que je vous relis en rapport avec la Sainte Cène que nous allons partager. Il quitta un séjour de paix et de sécurité, sacrifiant la gloire qu'il avait auprès du Père avant même que le monde fût, et abandonna la place qu'il occupait sur le trône de l'univers. Il vint sur la terre homme de douleur, exposé à la tentation. Dans la solitude, il sema avec larmes, et arrosa de son sang la semence de vie qu'il était venu apporter à un monde perdu. Voilà ce que nous en dit Ésaïe. Il s'est élevé comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé, abandonné des hommes, semblable à celui dont on se détourne, nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Et c'est à lui que nous devons la vie. C'est à lui que nous devons la joie qui aujourd'hui fait notre force dans le service rendu à l'humanité. Et c'est lui aussi qui nous fait cette promesse. J'essuierai un jour toute larme de vos yeux. C'est vrai que c'est difficile de nos jours que d'accomplir la mission qui nous a été confiée, mais nous ne devons pas nous décourager. Ce n'est pas parce qu'au bout d'un an de travail acharné, à Auxerre par exemple, il n'y a qu'un seul baptême, alors que plusieurs personnes se sont investies, alors qu'on a impliqué des sommes d'argent importantes dans ce projet, ce n'est pas parce qu'il n'y a qu'un seul baptême que ce baptême est insignifiant. Il est aussi signifiant que la vie d'une seule personne pour laquelle le Christ est mort. Et on le sait, Jésus aurait accepté de mourir ne serait-ce que pour une seule personne. Rendons gloire à Dieu pour ces personnes qui donnent leur cœur à leur Sauveur et qui viennent nous encourager dans notre travail de semeur d'évangile. Amen.
Tu prêtes.